Nous vous souhaitons une bonne écoute. Avenue des Mystères, de John Irving. Pour Martine Bell et Marie-Hélène Marc. L'ouvrage entamé ensemble, achevons-le ensemble. Et puis pour Minnie Domingo, Eric Dansel et leur fille, Nicole Dansel, qui m'ont fait voir les Philippines. Et enfin pour mon fils Everett, qui fut mon interprète au Mexique. Ainsi que pour Katrina Juarez, notre guide à Oaxaca. Dos abrazos muy fuertes. Les voyages s'achèvent par la rencontre des amants. Shakespeare, La Nuit des Rois. Chapitre 1. Les enfants perdus. Juan Diego éprouvait parfois le besoin de préciser « Je suis mexicain, je suis né au Mexique ». Et j'y ai grandi. Ces derniers temps, il s'était mis à dire « Je suis américain, je vis aux États-Unis depuis 40 ans ». Et quand il voulait désamorcer la question identitaire, il déclarait volontiers « Je suis un homme du Midwest, de l'Iowa pour être précis ». Il ne se définissait jamais comme mexicano-américain, non seulement parce que cette étiquette lui déplaisait, mais surtout parce qu'il pensait qu'on s'acharnait à chercher un fondement commun de l'expérience mexicano-américaine, fondement que, pour sa part, il ne se souciait guère d'approfondir. Ce qu'il disait, lui, c'est qu'il avait vécu deux vies distinctes et indépendantes. Une première vie mexicaine, pendant son enfance et sa prime adolescence, et puis, après son départ du Mexique, il n'y était jamais retourné, une seconde, américaine celle-là, dans le Midwest. Il affirmait ainsi que dans son esprit, c'est-à-dire dans sa mémoire, et aussi dans ses rêves, il vivait et revivait ces deux vies en parallèle. Une de ses amies chères, son médecin en l'occurrence, lui disait pour le taquiner qu'il était tantôt un gosse du Mexique, tantôt un adulte de l'Iowa. Juan Diego, pourtant discute ailleurs à l'occasion, ne la contredisait pas sur ce point. Avant que les bêta-bloquants ne perturbent ses rêves, il lui avait confié être souvent réveillé en sursaut par le plus anodin de ses cauchemars récurrents. Celui auquel il pensait était le souvenir de la matinée formatrice qui avait fait de lui un infirme. À vrai dire, seul le début du cauchemar ou du souvenir était anodin. Et trouvait sa source dans un événement survenu au Mexique, du côté de la décharge publique de Oaxaca, l'année de ses 14 ans. À Oaxaca, il faisait partie de ceux qu'on appelait los niños de la basura, les gosses de la décharge. Il habitait une bicoque à Guerrero, où une colonie de familles travaillait sur ce tas d'ordures, El Basurero, soit une dizaine en 1970, où la ville de Oaxaca comptait environ 100 000 habitants, dont la plupart ignoraient que le tri et la récupération des déchets incombaient aux enfants, chargés de mettre à part le verre, l'aluminium et le cuivre. Ceux qui savaient à quoi s'employaient ces gosses les surnommaient « los pepenadores », les charognards. Âgé de 14 ans, Juan Diego était un gosse de la décharge, charognard de son état, mais lecteur aussi. Le bruit s'était répandu qu'un niño de la basura avait appris à lire tout seul. En règle générale, ces enfants-là ne lisaient guère, et il est rare que les jeunes lecteurs de toutes origines et de tous horizons soient autodidactes. Ce qui faisait qu'on en parlait et que les jésuites, toujours enclins à favoriser l'instruction, avaient eu vent de ce gamin de Guerrero. Les deux vieux prêtres de l'église de la Compagnie de Jésus surnommaient Juan Diego « le lecteur de la décharge ». Il faudrait qu'on lui apporte deux ou trois bons livres à nous, au lecteur de la décharge, Dieu sait ce qu'il trouve là-dedans, avait déclaré le père Alfonso ou le père Octavio. Et comme chaque fois qu'il disait qu'on devrait faire ceci ou cela, Frère Pépé avait compris que la besogne lui incombait. Or, il était lui-même un lecteur vorace. Frère Pépé avait une voiture et, originaire de Mexico, il se repérait assez bien dans Oaxaca. Il enseignait à l'école des jésuites depuis longtemps prospère, car pour ce qui est de diriger des écoles, les jésuites s'y entendent. L'orphelinat, en revanche, était d'une fondation plus récente, puisqu'il résultait de la transformation du couvent dans les années 60. Frère Pépé avait mis tout son cœur dans cette école comme dans l'orphelinat, qui portait le nom triste comme un jour sans pain de « Hogar de los niños perdidos », Et avec le temps, les âmes sensibles rebutées par ce foyer des enfants perdus auraient sans doute reconnu avec un bel ensemble qu'à l'orphelinat aussi les jésuites faisaient un sacré boulot. Du reste, les gens avaient pris l'habitude de raccourcir le nom et d'appeler l'établissement les enfants perdus. L'une des religieuses qui s'occupait des orphelins grommelait à l'envi qu'ils n'étaient que des perdidos, mais l'épithète ne s'appliquait qu'à un ou deux garnements des plus intenables. Heureusement, ce ne fut pas elle qui apporta les livres aux jeunes lecteurs du Basurero, ni elle qui les choisit, car alors l'histoire de Juan Diego aurait pris fin avant même de commencer. Frère Pépé, lui, plaçait la lecture sur un piédestal. Il s'était fait jésuite parce que les jésuites lui avaient inspiré le goût du livre et l'amour de Jésus, pas forcément dans cet ordre. Mieux valait ne pas lui demander si c'était Jésus ou le livre qui l'avait sauvé, ni dans quelle proportion. À 45 ans, tout en rondeur, il disait de lui-même: à défaut d'être un corps céleste, je suis déjà joufflu comme un chérubin. Il était la bonté faite homme, et semblait l'incarnation de la supplique de sainte Thérèse d'Avila, des dévotions ineptes et des saints à face de carême, délivre-nous Seigneur. Comment s'étonner de l'adoration que lui vouaient les enfants? Mais ce jour-là, c'était la première fois que frère Pépé se rendait au Basurero de Oaxaca. À cette époque, dans les déchetteries, on brûlait ce qui voulait bien brûler. Des foyers flambaient dans tous les coins, et les livres étaient fort utiles pour les allumer. Lorsque Pépé sortit de sa coccinelle, la puanteur des ordures et la chaleur des brasiers lui parurent correspondre assez bien à l'idée qu'il se faisait de l'enfer, à ceci près qu'il n'aurait pas imaginé des enfants s'y afférant. Il y avait quelques très bons livres sur la banquette arrière de la petite Volkswagen. Il les considérait comme la meilleure protection contre le mal. Car la foi en Jésus elle-même n'avait pas le caractère tangible d'une pile de bons bouquins. Je cherche le lecteur, dit-il aux travailleurs, adultes et enfants. Les pepenadores lui lancèrent un coup d'œil qui trahissait leur mépris pour la lecture. Puis une femme à peu près de l'âge de Pépé s'exprima. Sans doute avait-elle enfanté un charognard, voire plusieurs. Elle lui apprit qu'il trouverait Juan Diego à Guerrero, dans la bicoque du greffé. Frère Pépé fut désorienté. Il crut avoir mal compris. El Jefe était le patron de la décharge. Le lecteur serait son fils? Demanda-t-il à la femme. Quelques gamins s'esclaffèrent, puis tournèrent les talons. L'idée ne fit pas rire les adultes, et la femme se borna à répondre: non, mais c'est tout comme. Elle désignait la direction de Guerrero, où les bicoques avaient été montées de briques et de brocs avec des matériaux récupérés sur la décharge, faisant de la colonie un quartier de détritus, niché à flanc de collines en contrebas. Quant à la bicoque du chef en question, elle se trouvait à la lisière de la décharge. Des colonnes de fumée noire s'élevaient au-dessus du basurero, piliers de noirceur qui atteignaient le ciel. Des vautours décrivaient des cercles tout là-haut, tandis que d'autres charognards sévissaient en bas. En effet, partout des chiens rôdaient autour des brasiers infernaux, cédant la place de mauvais gré aux éboueurs et à leur benne, et à eux seuls, ou presque. Les chiens constituaient des compagnons équivoques pour les enfants. Les uns comme les autres fouillaient concurremment l'ordure, mais pas pour y trouver la même chose. Ainsi, les chiens errants, pour la plupart, se fichaient bien du verre, de l'aluminium ou du cuivre. Pépé ne resta pas assez longtemps sur les lieux pour apercevoir les chiens à l'agonie et ce qu'il advenait d'eux. Les humains brûlaient leurs cadavres, quand les vautours ne les prenaient pas de vitesse. Pépé en croisa d'autres au pied de la colline à Guerrero. Des chiens adoptés par des familles qui travaillaient sur place et habitaient la colonie. Ceux-là lui parurent bien nourris et plus attachés à défendre leur territoire que ceux de la décharge. Ils ressemblaient davantage aux chiens ordinaires, plus nerveux, plus agressifs que les premiers, qui se faufilaient un peu partout en mode furtif ou soumis, sans pour autant renoncer à occuper le terrain en douce. Il valait mieux éviter de se faire mordre par un chien de Basurero, ou de Guerrero d'ailleurs, vu qu'ils venaient tous de la décharge au départ. Ça, Pépé en était convaincu. C'était lui qui emmenait les enfants malades de l'orphelinat chez le docteur Vargas, à l'hôpital de la Croix-Rouge.